France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22. Quel regard portez-vous sur les forces de l'ordre, sur le travail des policiers et des gendarmes, sur leur comportement quand vous y êtes confrontés? Eh bien, ça ne se passe pas toujours très bien, d'après le constat qu'en fait la défenseure des droits. Elle est notre invitée ce matin. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour.
Vous venez nous dévoiler vos conclusions sur le sujet. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressée justement à ces relations entre les forces de sécurité et la population? Vous avez été saisie à de nombreuses fois.
Parce que nous avons des réclamations. D'abord, nous sommes l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Nous voyons une partie des difficultés d'accès aux droits par les réclamations que nous recevons, mais il est important aussi à la fois de mener des enquêtes et des recherches, et nous avons voulu, là, voilà, étudier vraiment la confiance entre la population et la police à partir de deux situations très concrètes, les contrôles d'identité et les dépôts de plainte, et particulièrement les refus de dépôt de plainte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit un lien direct entre l'interaction et la qualité de cette interaction et la confiance que les personnes ont dans les forces de sécurité.
Et enquête très fouillée, hein, 5000 personnes interrogées, des entretiens qui duraient 35 minutes, hein, c'est ça, hein,
37 minutes.
Donc, on va reprendre les différents points. Les contrôles d'identité, vous faites le constat qu'il y en a de plus en plus, que ça augmente dans toutes les catégories de la population, mais il y a clairement des contrôles au faciès.
Il y a des contrôles qui concernent plus une partie de la population, et on verra qu'on a aussi cette difficulté sur les refus de dépôt de plainte. Ce qui est effectivement frappant, c'est que les jeunes hommes, alors d'abord, les jeunes sont plus contrôlés, les hommes sont deux fois plus contrôlés que les femmes, et après les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, effectivement sont quatre fois plus contrôlés, et surtout 12 fois plus de contrôles fouillés, poussés, c'est-à-dire des fouilles, des palpations, des conduites au poste, des injonctions à quitter les lieux. Et deux fois plus aussi confrontés à des comportements inappropriés, non conformes aux règles de déontologie.
C'est quoi des comportements inappropriés, par exemple ?
Ça peut être du tutoiement, ça peut aller pour des choses plus graves, hein, des insultes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes qui se déclarent non hétérosexuelles se plaignent aussi de plus de comportements inappropriés, 50% de plus que le reste de la population. Voilà. Donc ça ne concerne pas que les hommes perçus comme noirs ou arabes, mais donc il y a une difficulté d'interaction au moment de ces contrôles d'identité. Et le point important, c'est que si le contrôle d'identité s'est bien passé, la confiance dans la police est importante, dans la police et la gendarmerie, et inversement, sur les populations qui se plaignent de comportements inappropriés, non déontologiques, il y a une moindre confiance.
Ce qui semble logique.
Oui, mais donc c'est très intéressant, et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Donc parce que c'est bien en menant des enquêtes comme ça, en essayant d'évaluer ces difficultés, qu'on arrive aussi à proposer des solutions très concrètes sur ces deux situations.
Et c'est pareil pour les dépôts de plainte, hein. Vous avez constaté le même genre de discrimination.
Alors, le dépôt de plainte, on continue à être saisi de ce genre de situation, et là, dans l'enquête, c'est une personne sur cinq qui est confrontée à un refus de dépôt de plainte. Et là, ça concerne plus particulièrement des personnes vulnérables, hein. Des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont au chômage, qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, les jeunes hommes perçus aussi comme noirs et arabes, ceux qui portent des signes religieux.
Mais attendez, comment on sait que quelqu'un est au chômage quand il vient porter plainte? C'est pas écrit sur son front?
Non, mais là, dans l'enquête, alors comment on sait?
Le policier, il lâche le stylo quand il apprend que la personne est au chômage? Comment ça se passe?
C'est pour ça que je vous dis plus vulnérable au début, en situation plus difficile, et l'accueil est certainement peut-être pas facile. Je ne nie pas les difficultés auxquelles sont confrontées les forces de sécurité. Et la qualité de l'accueil en commissariat et gendarmerie, il dépend aussi des moyens qui sont donnés et de la qualité des bâtiments, ne serait-ce que ça, si on veut accueillir correctement. Donc, il y a certainement une plus grande difficulté avec des populations plus vulnérables. Et donc, c'est bien à partir de ces deux situations qu'on veut faire un certain nombre de propositions, puisqu'on voit que ça abîme la confiance et ça détériore la confiance dans la police et dans la gendarmerie. Donc, la question de la formation, elle est essentielle. Et puis, on a quand même toute une série de recommandations sur les modalités dans la façon dont se déroulent les contrôles d'identité, la traçabilité. Par exemple, vous avez dit, les contrôles ont augmenté. En fait, c'est la proportion, c'est la partie, c'est, je dirais plutôt que ça s'est élargi à des populations qui avant n'étaient pas contrôlées. Mais moi, je ne suis pas capable de vous dire si de fait les contrôles d'identité, ils ont augmenté. Il n'y a pas de traçabilité globale. Nous demandons une traçabilité globale pour évaluer le nombre de contrôles d'identité et puis pour quelle efficacité, hein, ce que la Cour des comptes avait cherché à évaluer est arrivé à 32 millions de contrôles d'identité. Et puis aussi une traçabilité individuelle parce qu'en fait, les gens qui sont contrôlés, ils se disent mais le contrôle s'est mal passé, justement. C'était pas conforme aux règles de déontologie. Mais quand ils viennent faire un recours chez nous, ils nous disent « mais en fait, j'ai pas de preuve que j'ai été contrôlée ». Donc, s'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de recours possible. Donc, ce point-là est vraiment important.
Pourquoi cette traçabilité n'existe pas ? J'imagine que quand vous la réclamez au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Elle nous paraît indispensable et surtout, il y a les moyens aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, si les forces de l'ordre déclenchaient systématiquement les caméras piétons, par exemple, on aurait une forme de traçabilité.
Et donc, pourquoi elle n'existe pas aujourd'hui ?
Donc, nous demandons, par exemple, le déclenchement systématique des caméras piétons. Est-ce que c'est l'enregistrement sur les tablettes les forces de sécurité qui permettrait cette traçabilité ? Mais donc, il y a un point important qui est cette question de traçabilité. Il y a la question de la formation. Très frappant, une personne sur deux qui a eu un contrôle d'identité n'a pas eu de justification de pourquoi vous êtes contrôlé. C'est quand même la première chose que doivent faire les forces de sécurité. Quand elles prennent votre identité, elles vous expliquent pourquoi elles vous contrôlent. Et ça, il faut renforcer la formation.
Et c'est légal de faire un contrôle sans justification ?
En tout cas, dans la déontologie des forces de sécurité, elles doivent expliquer pourquoi elles contrôlent. Et c'est vraiment important parce que c'est un des points aussi qui facilite l'acceptation du fait d'être contrôlé.
Merci beaucoup à Claire Hédon, défenseur des droits. Est-ce que vous allez décliner votre enquête, ce genre d'enquête, sur d'autres sujets ?
Alors d'abord, cette enquête, c'est le premier volet qui sort là. La suite va être sur les services publics, les droits des usagers de services publics, en fait nos différents domaines de compétences, sur les discriminations de façon plus générale et ensuite sur les droits des enfants.
On aura donc l'occasion de se revoir sans doute. Merci Claire Hédon, vous étiez en direct dans le 5-7.